À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Paul-Émile Borduas, ce peintre remarquable, vraiment l'un des plus grands peintres selon très nombreux critiques. Évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas du même avis. C'est toujours la même chose sur quelques questions que ce soit, de toute façon. Il sera question aussi de son refus global, un manifeste qui parut au mois d'août 1948 et qui avait eu un certain écho à l'époque. Et l'écho est devenu grandissant et au bout de 50 ans, on en a fait presque un mythe énorme. C'est un manifeste qui avait été un peu comme une petite bombe à l'époque et ça lui avait valu d'ailleurs à Paul-Émile Borduas la perte de son poste de professeur à l'École des Beaux-Arts. C'est un texte qui n'a été publié qu'à 400 exemplaires. Il s'en était vendu 250 et mon frère Guy en avait acheté un exemplaire. Ça se vendait $1. Et c'était pas facile à lire, c'était écrit de façon assez particulière, mais il y avait des choses qui nous étonnaient énormément, qui nous blessaient, parce que c'était surprenant, vraiment surprenant. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure à Radio Ville-Marie, je fais une petite incise qui a un rapport avec l'émission d'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, à la fin des nouvelles, la lecture de ce texte de Claude Masson, éditeur adjoint de la presse, qui est paru dans la presse samedi en page éditoriale B2, où il nous rapporte que Guy Fournier, qu'il dit, qualifie de l'original Guy Fournier, cofondateur de Télévision 4 saisons, où il n'est plus d'ailleurs, qui a donné une conférence à la demande de l'Office des communications sociales. L'Office des communications sociales, n'est-ce pas, c'est un organisme catholique. Hein? Et sous le titre très ambitieux de médias, les médias, évidemment, vous comprenez ce que c'est tous, l'éthique, c'est-à-dire la morale, si vous voulez, et la spiritualité. Et Guy Fournier, dit Claude Masson, a déclaré que notre clergé et notre télévision publique ont l'un et l'autre exactement les deux mêmes problèmes. Un problème d'image, puis un problème de définition. Et c'est très vrai, il y a bien raison. Pour Guy Fournier, au moment de la Révolution tranquille, l'Église d'ici n'a pas vu d'autre solution que de disparaître. Or, on dit que la Révolution tranquille est née en partie, en grande partie, du refus global de Paul-Émile Borduas. Guy Fournier déclare que l'Église s'est donc littéralement sabordée. Notre Église a choisi d'entrer en réclusion. Elle est entrée au carmel de la société. Et cela a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, on cherche notre Église et on l'appelle. On souhaite une nouvelle révolution. Spirituelle, celle-là, dit Guy Fournier. Une révolution qui restaurera notre héritage chrétien. Mais un véritable héritage chrétien, c'est ça la clé de son message, un véritable héritage chrétien, pas la caricature qu'on en avait fait. Or, je suis né en 1926, j'ai vécu ces événements-là, j'avais, quand il parut le manifeste, le refus global, j'avais 22 ans, et j'avais fréquenté à 20 ans, à la sortie du monastère, j'avais passé 2 ans au Saint-Méland-du-Lac, j'avais fréquenté les automatistes. Ça peut paraître curieux, quelques mois après fréquenter les automatistes, à la fin de en 1946. C'était comme ça. Et puis, j'y allais très simplement, et j'y ai passé même parfois la nuit avec Paul-Émile Borduas et les autres. Et ils ne m'ont jamais fait quoi que ce soit de désagréable. Au contraire, j'observais le jeûne eucharistique pour communier à la paroisse Saint-Jacques, voisine. Et après la communion, bien, je retournais, puis on me donnait à manger gentiment et je partais. Claude Fournier déclare bien que cette télévision publique, il fait un parallèle entre la télévision publique et l'Église. Et d'ici, on n'y fait rien, la télévision, en particulier de Radio-Canada et de Radio-Québec, n'est-ce pas, risque de disparaître, comme notre clergé a disparu, dit-il. Et plus loin, il dit qu'il souhaite le retour de l'Église et de la télévision publique sur la place publique, avec leurs objectifs à défendre, leurs responsabilités à assumer. Puis il dit que cette substance, cette âme, ce souffle spirituel dont nous avons si cruellement besoin ne viendra pas tout seul. Notre Église peut. Il doit être une force, pas une force dans le sens où on l'entendait il y a 50 ans ou 60 ans, non, non. Une force qui propose des solutions originales, des solutions différentes que celles éculées que nous offrent les personnages politiques. Et il a, M. Fournier, il a servi une espèce de série d'interrogations mordantes, pour que la télévision publique et surtout l'Église reprennent leur place, élèvent la voix sur les grandes questions de l'heure. Alors, ce sont les grandes questions de l'heure que je vais essayer d'aborder aujourd'hui en rapport avec la pensée de Paul-Émile Bourdieu que j'ai connu, avec lequel j'ai déjà mangé plusieurs fois chez mon frère aîné Louis et sa femme Juliette Joubert, au 2000 boulevard Lévesque, Duvernay, c'était dans ce temps-là, ça s'appelait comme ça, Duvernay. Et c'était un homme charmant. Sa femme était vraiment discrète et très aimable. Je suis allé à la messe tous les jours avec elle pendant des années au Collège de Montréal, il y a quelques années, Madame Gabrielle Bourdieu. Et ça me rappelle la parole de Marcel Ferron, signataire du Refus Global, qui disait « Les gens ont pensé que nous étions des gens volages, que nous baisions... Pas du tout, a dit, nous étions puritains, et c'est vrai. Ils étaient plutôt de tempérament puritain, de tempérament très discret. Je vous assure, c'est tout autre chose. Et peut-être avez-vous lu dans la presse hier cet article du docteur Kenneth Walker sur le suicide. Un de ses amis au téléphone lui annonce que son fils s'est suicidé. Et pendant 5 colonnes, ce médecin ne fait aucune référence à Dieu. Il croit qu'on peut éviter le suicide simplement comme ça. Étrange chose. L'un des porte-paroles les principaux du refus global a été Claude Gauvreau, que j'ai connu aussi, qui était un révolté, parfois très calme, mais parfois très révolté. Et Lorraine Pintal, qui a monté « Les oranges sont vertes », cette pièce étrange, cette pièce que j'ai vue d'ailleurs et à laquelle j'ai travaillé, disait que c'est presque l'idée de Jésus trahi par Judas. La recherche d'absolu, du héros, tient de la foi. Et c'est un peu vrai dans un sens. Leur foi, c'est une foi athée, c'est une foi autre, c'est une foi qui met à terre le christianisme et qui veut même la ruine du christianisme dans la bouche de certaines personnes. Mais c'était l'impatience devant un christianisme qui était pour eux mortel d'ennui. Et qui surtout était basé, comme ils le disent souvent, sur un péché transmissible dont nous sommes tous coupables et qu'il fallait se faire pardonner en souffrant. Alors ils avaient une conception évidemment du christianisme très négative, très triste. Et le personnage de Gauvreau dans Les oranges sont vertes se trouve être un peu le porte-parole de la pensée du refus global. Mais comme le dit bien Odile Tremblay dans Le Devoir, elle dit que c'est peut-être ce mythe même du poète maudit qui a vieilli. Et elle dit à un moment donné que si elle le rencontrait, peut-être qu'elle se détournerait d'un personnage aussi violent, aussi désireux de tout changer à tout prix. Mais qui est ce Paul-Émile Bourdieu? Il est né le 1er novembre 1905 dans le petit village de Saint-Hilaire. C'est situé à une vingtaine de kilomètres de Montréal, pour ceux qui connaissent bien Saint-Hilaire. Et c'est dominé par la montagne du même nom, hein, le mont Saint-Hilaire. Et on pourrait commenter l'influence du paysage de cette région sur la peinture de Bourdieu. Mais... c'est là qu'il s'est éveillé de toute façon au monde de l'art. Parce que, savez-vous que Bourdieu s'est éveillé à l'art sacré, d'abord, à l'église du village, qui est magnifiquement ornée des décorations religieuses d'Ozias le Duc, comme nous le rappelle M. Gagnon dans une étude admirable sur Paul-Émile Bourgeois. Un bouquin énorme avec des reproductions superbes, splendides. Ozias le Duc, dont j'ai un petit dessin admirable, c'était un artiste d'une très grande qualité, est né, lui, en 1864 et mort en 1955, 5 ans avant Bourgeois. Et ces tableaux-là ont constitué, nous dit M. Gagnon, à eux seuls, les premières admirations picturales du jeune Bourgeois. Et il cite, Bourgeois d'ailleurs, il dit « De ma naissance, à l'âge d'une quinzaine d'années, ce furent les seuls tableaux qu'il me fut donné de voir. Vous ne sauriez croire combien je suis fier de cette unique source de poésie picturale à l'époque où les moindres impressions pénètrent au cœur de nous-mêmes et orientent à notre insu les assises du sens critique. Ce sera étrange pour quelques-uns d'entendre que je sois resté fidèle à l'essentiel de ses premières impressions. J'en suis convaincu, toutes les admirations picturales subséquentes ont dû s'accorder avec elle, qu'on le croit ou non. » Alors, qu'on le croit ou non, c'est vrai qu'on est un peu surpris. Or, au moment où Bourgeois écrit ces lignes-là, on croyait de bon ton d'opposer les décorations religieuses d'Ozias le Duc dans cette église et ailleurs à sa peinture de chevalet. On connaît la peinture de chevalet d'Ozias le Duc et de très belles choses. Et d'expliquer la prétendue mauvaise qualité des premières par les exigences du clergé qui lui demandait de peindre des saints, des anges, etc., un peu mièvres, et qui ne sont pas mièvres à mon avis, ils sont redevables de l'époque, hein, des années 20. Le duc aurait donc bâclé ses décorations d'église, dit-on. C'est un mythe absurde. Et Bourgeois ne croyait pas à ça. Car si Bourgeois, dans les articles qu'il consacre à Ozias le Duc, son maître, il exprime son admiration pour les tableaux de chevalet aussi de le Duc. Puis il n'y déprécie aucunement sa peinture religieuse, pas du tout, du tout, du tout. C'est vous dire que dans l'âme de Bourgeois, il y avait un grand respect pour les valeurs religieuses que représentait la peinture de son maître. Il connaissait cette peinture trop bien pour la renier, puis il en a fait lui-même. Il en a fait, et ça a été louangé par nul autre que par Maurice Gagnon. Maurice Gagnon a écrit à ce sujet un texte qui peut surprendre tout le monde. C'est paru dans un ouvrage qui est intitulé « La peinture moderne » en 1940. Et il dit bien que lorsque Bourgeois aborde les sujets sacrés, il extériorise une sensibilité extrême. Et la figure de Saint-Jean, c'est un tableau que possède Monsieur le sous-ministre Jean Bruchy, dit-il, étonnera peut-être votre traditionnalisme, et cependant cette œuvre relève de l'esthétique inspirée de tous les temps. Et sa nouveauté tient de ce fait sa franchise et son expression authentique. Et voyez plutôt, dit-il, Bourgeois imprime à cette effigie de Saint-Jean une vigueur mâle et une intensité mystique profonde, et quelle étonnante vie surnaturelle dans ses yeux baignés d'idéal, fixés quelque peu plus haut que l'horizon, un regard pénétrant et cependant comme éteint. Et cette humanité est toute imprégnée, écrit Maurice Gagnon, d'ascétisme. Elle est divinisée de l'intérieur, le spirituel transparaît du tréfonds de l'être, au derme changeant la peau, à la surface changeante d'un visage qui bouge. Hein? Des œuvres d'un caractère si éminemment religieux devraient d'or et déjà avoir trouvé place dans nos églises du Canada, où trop souvent la copie, le camouflage, la fausseté, dit Maurice Gagnon, sont mis au service de la maison de Dieu, qui, lui, est toute vérité. Comme vous voyez, en 1940, c'est ce qu'on écrivait de la peinture religieuse de Bourgeois. Ça peut vous sembler étonnant, je le cite, parce que ça a son intérêt. Bourgeois revient souvent sur cette période de sa vie auprès d'Ozias le Duc, peintre d'église surtout. Et il reconnaît la dette immense qu'il avait contractée envers celui qu'il appelait toujours avec respect Monsieur le Duc. Il lui dit, il écrit à un moment donné, « Je lui dois ce goût de la belle peinture avant même de l'avoir rencontré. Je lui dois d'avoir rencontré la vraie belle peinture. Je lui dois l'une des rares permissions de poursuivre mon destin. Je lui dois, on n'en finit jamais de l'acquérir tout à fait, le goût du travail soigné. Je lui dois enfin de m'avoir permis de passer de l'atmosphère spirituelle et picturale de la Renaissance au pouvoir du rêve qui débouche sur l'avenir. Ce sont des paroles très importantes. Hein? Il est donc né à Saint-Hilaire, Borduas. Il se fera connaître comme peintre à Montréal. Je me souviens de ses premières expositions. Oui, j'y étais, ça peut sembler surprenant. J'ai même des cartons. Je les ai pas tous gardés, mais j'en ai un de 1949. Quand on y pense, on peut se demander ce que serait devenu la peinture de Borduas si Borduas avait fait carrière comme décorateur d'église simplement. Il serait peut-être oublié comme Ninkiri que je voyais peindre l'église Sainte-Madeleine d'Outremont. Dans mon enfance, j'allais l'observer dans le transept droit de l'église Sainte-Madeleine d'Outremont. Il a peint des fresques absolument admirables sur la vie de Sainte-Madeleine, mais malheureusement, elles sont toutes couvertes de peinture. Et on ne peut plus les voir. On ne voit plus que Sainte-Madeleine au pied de la croix, dans le fond de l'abside. Et c'est une peinture magistrale dans le sens de l'hyper-réalisme académique. Mais c'est vraiment de la très grande peinture dans ce genre. Mais Ninkiri est oublié. Chabotier aussi, qui est mort en 1953, est oublié. C'était ses concurrents. Ils ont été plus favorisés durant les années 30. Et Borduas, qui peignait déjà d'une façon un peu particulière, n'a pas été aussi apprécié. Ses efforts dans le but d'assurer la relève dans le domaine de l'art religieux ont été vains. C'était voué à l'échec. Et puis, ceux qui l'appuyaient ont fini par ne plus se soucier de lui. Et bientôt, la question n'intéressait plus personne, et Borduas n'aurait pas acquis finalement toute l'érudition qu'il a acquise en se déplaçant, en allant vivre finalement à New York et à Paris, à la suite de ce revue globale qui lui a coupé tous les ponts à Montréal, car l'emprise d'une espèce d'intégrisme chrétien a été terrible. Et ça s'est fait en sourdine, mais ça se faisait comme ça, hein? Les gens étaient plus ou moins obligés d'aller à la messe, même s'ils ne croyaient pas, pour pouvoir garder leur bureau de notaire, d'avocat, ou... C'était comme ça à l'époque, hein? C'est presque le contraire aujourd'hui. Et quand on est catholique, il faut presque se cacher. Les jeux sont faits d'un autre côté. Montréal allait modifier les données, hein, pour Borduas. Montréal a été d'abord et avant tout une espèce de lieu mental, nous dit monsieur l'auteur de ce livre fantastique sur Borduas. Mon Dieu, j'ai des blancs de mémoire invraisemblables, qui a tout simplement le nom que je connais par cœur et qui s'appelle Gagnon. Je cherche son prénom, c'est Marc Gagnon. Mais le prénom au complet, c'est François Marc Gagnon. Bon, je le sais très bien, je le connais. Et, c'est un ancien dominicain, soit dit en passant, qui a un sens extraordinaire de l'histoire de l'art et une compréhension fabuleuse de l'histoire de l'art contemporain. On l'entend à la télévision, je l'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Borduas a vécu donc à Saint-Hilaire assez souvent, mais c'est surtout à Montréal que tout se passe. Et il n'y a pas de froid entre Ozias le Duc et lui, pas du tout. C'est que l'univers de Borduas gravite de plus en plus autour de recherches nouvelles qui ne sont pas tout à fait celles de le Duc, hein. Alors, en 1937, Borduas s'engage comme professeur à l'École du meuble de Montréal. Puis à partir de cette date, jusqu'en 1948, sa vie professionnelle va donc se passer à Montréal. 48, c'est l'année du manifeste, le refus global. C'est à l'École du meuble qu'il noue ses relations les plus importantes, à la fois avec des gens de sa génération, puis avec des jeunes, qui sont très jeunes, 20, 22, 23 ans, je me souviens, ce groupe était très, très jeune. Ça allait devenir les automatistes. Quand après la publication du refus global, son renvoi de l'école du meuble en 48, il n'aura plus le prétexte du gagne-pain pour ses visites hebdomadaires à Montréal. Et il va rester tout de même en contact avec ses amis. Et c'est à Montréal que la diffusion de l'œuvre de Bordua va s'actualiser petit à petit dans des expositions très simples, au fond, hein, dans un parloir de séminaire, dans le foyer d'un théâtre de collège, où quand même, vous voyez que les religieux qui occupent ces institutions ouvrent leurs portes. Une galerie commerciale, qui est la galerie de Max Stern, que j'ai bien connue aussi, qui avait la Dominion Gallery, c'était dans ce temps-là sur la rue Sainte-Catherine, avant d'être cette immense galerie sur la rue Sherbrooke, près du Musée des Beaux-Arts. Et on a fait ça aussi dans l'auditorium d'un grand magasin, je me souviens, c'était chez Morgan, qui est devenu la baie, dans l'appartement de la mère d'un des jeunes disciples de Bordua, dans un atelier décorateur, dans l'appartement d'un ami. Comme vous voyez, c'était un peu simple. Évidemment qu'il y a eu des expositions mineures et qui n'ont presque pas eu d'importance à l'Art Association of Montreal, qui était au fond le Musée des Beaux-Arts, et puis la Galerie nationale du Canada, Ottawa, l'Art Gallery of Toronto, puis le Musée du Québec à Québec. Mais ces musées font partie d'un réseau, leur action n'a pas tellement d'importance, et la critique d'art de l'époque vaut-elle mieux? Ben, elle est ouverte, elle est généreuse. Hein? Il y a des beaux textes qui sont parus, en particulier de Robert Ellie, de Charles Doyon, de Gélénaud, des Lois de Grandmont. Mon Dieu, Éloi de Grandmont, j'étais mon voisin, Robert Ellie, que j'ai bien connu, disait, lui, des choses très intéressantes. L'œuvre de Bordua, il a publié ça en 43, aux éditions de l'Arbre, j'avais acheté ça à l'époque. L'œuvre de Bordua chante tout d'abord la splendeur de la lumière, puis les beautés plus intérieures des architectures logiques. Enfin, les merveilles imprévisibles de la nuit. Évidemment qu'on tombe dans l'abstrait. Et l'abstrait était ridiculisé, mais ridiculisé de façon violente. Mais lui, Robert Ellie comprend. C'était un catholique, Robert Ellie, un catholique profondément sérieux. Il dit, dans la première de ses phases, le lyrisme de Bordua s'exprime à peine dans des œuvres d'une exquise sensibilité. Dans une seconde, il anime de son souffle puissant des constructions d'une rigueur admirable. Enfin, dans la dernière, il s'exprime librement, dans un espace qu'aucune règle, aucune échelle de valeur, aucune mesure de grandeur ne viennent limiter. Ce sont les miracles, dit-il, répétés des gouaches, où le lyrisme jaillit en joie vive et sereine. Et ce sont les fougueuses toiles, finalement, de l'été 1943, plus graves, mais d'une exécution tout aussi heureuse. Hein? Mon frère Louis avait acheté une des gouaches en 1942 à l'Ermitage, et mes neveux et nièces voudraient bien la vendre aujourd'hui, car ça vaut très cher. Quand Bordua, dit Robert Ellie, se détourne de la nature, ce n'est sûrement pas pour faire des raisonnements, c'est au contraire qu'une émotion, venue d'ailleurs, forte et terriblement exigeante, l'invite à créer un objet parfaitement organisé et fait d'une matière somptueuse et attirante pour les sens. Or, ça, c'est un catholique qui l'écrit, mais il y a plus, il y a le père Marie-Alain Couturier, dominicain qui a beaucoup encouragé le milieu artistique de Montréal, ce dominicain français, qui a publié à l'Arbre avec un copyright de 41, mais l'article que je relève est celui de 1945. Il dit, si je fais de la non-représentation, des choses abstraites, suffisait à exclure la référence à un autre monde, dans le cas présent, le monde des réalités surnaturelles, le monde du divin, le monde des anges, le monde des saints, le monde du ciel, quoi. Comment l'architecture ou la musique, art non représentatif, pourrait-il être religieux, demande le père Couturier. Or, il y a bel et bien des architectures et des musiques auxquelles nous savons reconnaître une valeur religieuse. Et Dieu sait que Manessier et bien d'autres ont fait des vitraux abstraits qui chantent un monde surnaturel, car leur foi transperce à travers ce monde. De même la musique. Combien d'œuvres sans paroles que l'on entend à l'orgue sont des œuvres abstraites, mais des œuvres qui élèvent l'âme et qui nous font méditer et nous remplissent le cœur du sens de la présence de Dieu. Le père Couturier dit à un moment donné, on entend dire couramment que l'art abstrait est un art païen parce qu'il ne respecte pas la création divine, irrationnel parce qu'il n'exprime aucune idée. Eh bien, de l'irrationnel à l'irréligieux, le pas est alors vite franchi, sans qu'on prenne toujours le temps de se souvenir que la mystique elle-même, etc., c'est pour dire qu'il a reçu des appuis très tôt, y compris même du père Louis-Marie Régis, ce dominicain de Montréal, qui était un homme admirable. Aujourd'hui, il est question de Paul-Émile Bourdieu et du refus global. Qu'est-ce que ce refus global, finalement? C'est un texte manifeste, comme je vous ai dit. Et si on y défend un automatisme dans l'art, c'est-à-dire finalement un art abstrait, un art qui ne représente rien de créé, rien de visuel, mais où on assemble des couleurs et des formes dans un espace pour créer autre chose et créer un ensemble. Le texte s'attaque de front à une église qu'on considère comme trop accaparante et trop écrasante. Il a été compris par le père Ernest Gagnon, jésuite, par plusieurs personnes, vous savez, beaucoup de religieux ont compris ce qu'il voulait dire. Peut-être ont-ils trouvé, comme ça me le semblait, bien que j'étais bien jeune, un peu violent. Il écrit à un moment donné, un petit peuple serré, de près, aux soutanes, restés les seuls dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Petit peuple tenu à l'écart de l'évolution universelle de la pensée, pleine de risques et de dangers. Petit peuple éduqué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle. Et dans le faux jugement des grands faits de l'histoire, quand l'ignorance complète est impraticable. On peut comprendre ce qu'on veut, souvent. Il dit plus loin que héritière de l'autorité papale, mécanique, sans réplique, grand maître des méthodes obscurantistes, bien aux maisons d'enseignement ont dès lors les moyens d'organiser en monopole le règne de la mémoire exploiteuse, de la raison mobile, de l'intention néfaste. C'est un point de vue sur de nombreuses maisons d'enseignement, possiblement. Moi, j'ai fait mes études à l'époque à Brébeuf. J'étais là, j'ai quitté en 44 pour entrer à Saint-Benoît-du-Lac. Et on avait comme professeur, justement, Maurice Gagnon et Ernest Gagnon, ce jésuite, qui nous enseignait, justement, cet art qu'il veut mettre en valeur. Et on lui faisait apprécier. Et on avait des diapositives et toutes sortes de choses. C'était un début et on avait vraiment des cours très intéressants. Alors, Bourdieu et peut-être aussi Claude Gauvreau, qui est peut-être en partie l'auteur de ce manifeste, car Claude Gauvreau avait une plume facile, était un type brillant, qui est mort trop jeune, évidemment. Notre destin sembla durement fixé. Des révolutions, des guerres extérieures brisent cependant l'étanchéité du charme, l'efficacité du blocus spirituel. L'efficacité du blocus spirituel, c'est ça dont il souffrait. Les luttes politiques deviennent âprement partisanes. Le clergé, contre tout espoir, commet des imprudences, écrit-on. C'est assez juste aussi. Moi, je ne veux pas défendre à tout prix l'Église contre les torts qu'elle a pu avoir. Je veux regarder ça comme un cri de révolte, mais c'est un cri de révolte qui part d'une incompréhension de l'essence même du christianisme. C'est tout. C'est la seule différence entre eux et moi, je crois. Des révoltes suivent, quelques exécutions capitales succèdent. Passionnément, les premières ruptures s'opèrent entre le clergé et quelques fidèles. Il écrit à un moment donné des œuvres révolutionnaires, quand par hasard elles tombent sous la main, paraissent les fruits amers d'un groupe d'excentriques. L'activité académique a un autre prestige à notre manque de jugement. C'est vrai qu'on n'appréciait pas du tout les œuvres qu'on nous faisait apprécier à Brébeuf. Et quand nous sortions de classe à l'âge de 14, 15, 16 ans, avec des idées plein la tête, admirant les œuvres de Matisse et de Bourdieu, puis de, oh mon Dieu, de Pellan, puis de quantité d'autres peintres. Nous passions pour des snobs et des excentriques et des incompris. C'était notre surnom, les incompris. Ces voyages, dit Bordua dans son texte, ces voyages sont aussi dans le nombre, l'exceptionnelle occasion d'un réveil. Alors, ils voyagent en Europe, hein, ils vont en France. Et il y a des contacts qui se font dès les années 46. Moi, j'y suis allé en 49 et je me souviens combien ça m'a fait du bien d'aller en Europe. Oh là là. Il dit à un moment donné, des consciences s'éclairent au contact vivifiant des poètes maudits. Ben, on étudiait ça, les poètes maudits à Brébeuf. On étudiait Baudelaire, etc. Ils nous faisaient étudier ça, les jésuites. Ces hommes qui, sans être des monstres, écrit Bordua, osent exprimer haut et net ce que les plus malheureux d'entre nous étouffent tout bas dans la honte de soi et la terreur d'être engloutis vivants. Je vous ai fait une émission sur Rimbaud, j'en ai fait une, mon Dieu, sur Gérard de Nerval, j'en ai fait une récemment aussi sur Franz Kafka, j'en ai fait sur Albert Camus. J'essaie de montrer justement que leur cri est un cri qui est parallèle souvent à celui des mystiques. Mais nous, chrétiens et mystiques, nous avons un tel désir d'aimer Dieu, parce que nous nous savons aimer par Dieu, que notre cri est tout autre. Il se rapproche beaucoup plus de celui de Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le même cri. Mais dans le mon Dieu de Jésus, il y a un amour et une confiance, quand même. Tandis que c'est un cri sans guère d'espérance. Alors il écrit, Bordua au diable, le goupillon et la tuque. Mille fois ils extorquèrent ce qu'ils donnèrent jadis. Par-delà le christianisme, nous touchons la brûlante fraternité humaine dont il est devenu la porte fermée. Parce qu'ils ne trouvent pas de fraternité dans nos églises, dans le christianisme qui condamne à cette époque très facilement à peu près n'importe qui, n'importe quoi. C'était une époque très dure. Le règne de la peur multiforme est terminé, écrit Bordua. Dans le fol espoir d'en effacer le souvenir, je les énumère. Peur des préjugés, peur de l'opinion publique, peur des persécutions, peur de la réprobation générale. Peur d'être seul sans Dieu et la société qui isole très infailliblement. Peur de soi, peur de son frère. Peur de la pauvreté, peur de l'ordre établi, peur de la ridicule justice, peur des relations neuves, peur du surrationnel. Il y a là comme un appel à du surrationnel et finalement du surnaturel véritable. Ah, s'ils avaient compris ce qu'est l'Eucharistie, s'ils avaient compris la tendresse du cœur de Dieu, s'ils avaient compris la douceur de la main de la Sainte Vierge, s'ils avaient compris la lumière du ciel. Mais ils ne l'ont pas su. Ou s'ils l'ont su, ils n'ont pas compris. Peur des écluses, dit-il, des écluses grandes ouvertes sur la foi en l'homme plutôt que la foi en Dieu. Peur des écluses grandes ouvertes sur la foi en la société future. Alors ils sont tombés petit à petit dans un certain marxisme. Qui a déplu à Marcel Barbeau, au signataire, qui regrette d'avoir signé, dit-il, dans la revue L'Actualité. Peur de toutes les formes susceptibles de déclencher un amour transformant. J'aime beaucoup cette phrase. Vous direz que c'est épouvantable de dire ça, peur de toutes les formes susceptibles de déclencher un amour transformant. C'est qu'il ne voyait pas du tout dans le christianisme une forme. Quelque chose qui appelait à déclencher un amour transformant. Or, le christianisme, c'est essentiellement ça. C'est la religion de l'amour transformant. Mais Bordua ne l'a pas compris. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas compris? Pourquoi ne comprend-on pas? Sommes-nous si mauvais transmetteurs de notre foi, de notre religion? Alors il écrit plus tard, nous avons été écœurés devant l'apparente inaptitude de l'homme à corriger les mots, M-A-U-X, devant l'inutilité de nos efforts, devant la vanité de nos espoirs passés. Il dit aussi ne pas avoir la nausée devant les récompenses accordées aux grossières cruautés, aux menteurs, aux faussaires, aux fabricants d'objets mort-nés, aux affineurs, aux intéressés à plat, aux calculateurs, aux faux guides de l'humanité, aux empoisonneurs des sources vives. C'est un cri tout à fait parallèle à celui de l'Évangile. Quelqu'un qui adhère à l'Évangile à plein et qui serait un saint pourrait dire ça. Ne pas avoir la nausée devant les récompenses accordées aux grossières cruautés. On décore souvent les imbéciles, les menteurs, les faussaires, les fabricants d'objets mort-nés. C'est tout à fait vrai. On voit les prix qui sont accordés. Quand est-ce qu'on accorde des prix à quelqu'un qui a donné tout son cœur aux plus pauvres? Mère Thérèse a obtenu le prix Nobel. Mère Thérèse a obtenu beaucoup de prix. Mais ici, j'aimerais bien. On décore heureusement dans la presse en fin de semaine. On fait la personnalité de la semaine. Et encore samedi, c'était la personnalité de la semaine. C'est ce jeune policier qui a sauvé un garçon de l'eau et qui a ce beau sourire. Ça fait du bien. Il dit à un moment donné, la religion du Christ a dominé l'univers et vous voyez ce qu'on en a fait. C'est du désespoir devant ce qu'on a fait de la religion du Christ, car il ne voit pas les beaux aspects de l'Église. Ça lui était comme caché. Il dit à un moment donné, la décadence chrétienne aura entraîné dans sa chute tous les peuples, toutes les classes qu'elle aura touchées, dans l'ordre de la première à la dernière, de haut en bas. Sa vision du christianisme est une vision au regard très évangélique dans un sens, mais qui manque de profondeur. Profondeur. Alors, il fait appel à la magie, dans un sens, pas de la magie noire. Place à la magie, place aux mystères objectifs, place à l'amour, place aux nécessités. Au refus global, nous opposons la responsabilité entière. Et plus tard, il dit, à vous, la curée rationnellement ordonnée, comme tout ce qui est au sein affectueux de la décadence, à nous, l'imprévisible passion, à nous le risque total dans le refus global. Vers la fin, il dit « Hier, nous étions seuls et indécis. Aujourd'hui, un groupe existe, aux ramifications profondes et courageuses. Déjà, elle déborde les frontières. » Alors, ils appellent à un changement. Il veut un changement et il s'en va donc de Montréal à Boston en 1953. Et puis, il finit par aboutir à New York. Il ne fait pas de doute que deux années passées à New York ont été cruciales dans l'évolution picturale de Bordua. Et optant pour l'exil, Bordua pouvait espérer sortir du ghetto québécois, s'ouvrir sur le monde, dit-il, pour reprendre les termes du refus global, briser l'étanchéité du charme, mettre en péril l'efficacité du blocus spirituel dont je vous ai parlé tout à l'heure, circuler librement hors les murs. Alors, c'est ce qu'il désire et c'est ce qu'il cherche. Alors, ce goût du risque a été très réel chez Bordua. Et on a la preuve dans un texte où, 10 ans après le refus global, il mesure la portée. Et puis, il dit, si je tiens pour l'universel la portée du refus global, il dit non. Malgré les éléments spirituels du refus global, sa portée mondiale est nulle. En dépit d'échos français, anglais, japonais et américains. Et c'est vrai que ça a eu un certain écho à travers le monde, mais ça n'a pas été tout ce qu'il a fait. Et finalement, il se dirige vers Paris et il est appuyé par les bons offices du dominicain Louis-Marie Régis pour faire parvenir un nouvel exemplaire du manifeste à son destinataire, oui. Le manifeste est transmis par le père Louis-Marie Régis. Je tiens à le signaler, car j'ai travaillé avec le père Régis 2 ans à la radio de Radio-Canada de 1860 à 62 à faire la prière du matin. Est-ce qu'on se souvient de ce temps où la prière était si belle? Puis à partir de 53, bien la grande préoccupation de Bordua ne sera plus la diffusion des idées de refus global, mais la confrontation de sa peinture. Il oublie son refus. Et finalement, il va se rendre à Paris, et c'est le 21 septembre 1955, en compagnie de sa fille Jeannine, que Bordua quitte New York pour la France, à bord du Liberty, et il débarque au Havre, puis se rend à Paris aussitôt. Et il avait rêvé de voyages encore plus lointains, puisqu'il avait envisagé le Japon, mais Paris voit son dernier lieu d'exil et c'est là, en effet, qu'il va mourir quelques années plus tard, le 22 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1960. Quand il est mort, on a trouvé sur son chevalet une peinture, une huile, non signée, non datée. Elle est donc de 1960 et de la collection de René Bordua. René Bordua était mon assistante à Radio-Canada quand j'étais réalisateur à la télévision. Elle était merveilleuse, ah, René Bordua. Quelle assistante charmante et vraiment que j'ai beaucoup aimée. C'est la composition 69 qui était sur son chevalet. Et M. Gagnon écrit « Parce qu'il se trouvait sur le chevalet de l'artiste à sa mort, ce tableau est habituellement considéré comme la dernière œuvre de Bordua. » Le poète Jean-Paul Filion, qui a visité l'atelier de Bordua le 26 février, donc 6 jours plus tard, 1960, à l'occasion des funérailles du peintre, a pu en rapporter une image saisissante. Je cite donc, c'est très beau ce qu'il dit. La peinture encore fraîche que je vois agrippée au chevalet me paraît être la représentation pure et simple d'une véritable carte mortuaire. Je la décris, une seule masse noire et immense, couvrant la surface presque totale de la toile avec, dans le haut, un mince horizon de blanc, dans lequel baigne un soupçon de vert limpide et où le peintre a piqué 2 petites formes noires rectangulaires, créant ainsi une perspective fascinante vers l'espace. Que viennent faire ces 2 blocs, ces 2 masques, ces 2 fantômes comme des bouts d'un linceul, et qui persistent à prendre toute la place dans un espace réduit de lumière inaccessible, le tout placé comme en exergue au sommet d'un haut mur de charbon luisant. Ce qui m'entraîne à voir dans cette œuvre limite l'illustration d'une sorte de désespoir vécu aux confins du cosmos. Ai-je tort d'imaginer cela? Oui, l'espérance de Paul-Émile Bordua. J'espère que sa femme, si chrétienne, a obtenu le salut de son mari. Je la salue si elle m'écoute. Dans un article paru dans la presse à l'occasion du lancement des timbres des automatistes par Poste Canada le 7 août 1998, 2 jours avant l'anniversaire, je crois, du refus global, Pierre Gauvreau dit « C'est seulement aujourd'hui que ceux qui ont des idées plein la tête ont peur, parce que les crier haut et fort, ça fait mal. » Eh bien, c'est le contraire. Dans son temps, c'était ça. Eux ne pouvaient pas crier très haut. C'est nous, maintenant, qui ne pouvons pas crier très haut. Je revoyais hier, car je l'ai enregistré, la cassette vidéo de Radio-Canada à l'occasion du 50e anniversaire du refus global. Et on voit à un moment donné Jean-Paul Riopel, que j'ai connu aussi, figure bouleversante et usée, dit Paul Cochon dans Le Devoir, qui a reçu l'équipe de l'émission chez lui, dont la présence est très émouvante. Et Riopel n'a à dire que ces paroles-ci, la liberté, ça n'existe pas. La seule liberté intéressante, c'est d'être ailleurs. Parti. Je ne suis allé nulle part. J'ai juste essayé de fuir. Je ne suis jamais content d'être là. Je veux toujours être ailleurs. Et quand je suis ailleurs, je ne suis pas content. C'était tragique. Tragique. J'ai trouvé ça bouleversant. Absolument bouleversant. Ça me rappelle un bel article de Stéphane Baillargeon paru au sujet. Vous connaissez peut-être Wadji Mouawad. C'est un auteur de pièces de théâtre extraordinaire de Montréal, chrétien, qui dit bien que l'aveu de sa foi et du christianisme n'est plus en odeur de sainteté ni dans la société québécoise ni dans le milieu du théâtre québécois. Il ajoute, si on dit s'intéresser aux questions spirituelles, c'est accepté. Par contre, si on se présente comme croyant, on entre sur un terrain miné. Le mot foi, le mot chrétien sont devenus difficiles à prononcer au Québec. Même les plus jeunes qui n'ont pas vécu l'écrasement de l'Église semblent vivre une sorte de rejet par procuration. Et le milieu des arts, en général, semble être athée ou avoir expédié la question religieuse. Le poète Pessoa dit que lorsqu'on perd sa religion, on perd toutes les religions. au Québec. On me parle souvent de la forme de mes spectacles. Ici, en France, le public me parle immédiatement du sens, de l'idée de la rédemption centrale dans Littoral, pièce qu'il a écrite. Or, dialoguer, questionner, l'essentiel est là, dit Stéphane Bayard-Jean, il a bien raison. Au Québec, c'est lassant de justifier ma foi, dit cet auteur. Au lieu d'en parler, de parler de Dieu, qu'il n'existe ou pas, je crois que l'athéisme est une très grande spiritualité. Chose étrange, puis il dit à un moment donné que dans Les oranges sont vertes, Gauvreau montre un combat pour une vérité, une lutte pour la pureté, une quête d'absolu de substitution. Et c'est ça le drame, hein? Et il ajoute, au fond, ce personnage de Gauvreau dans Les oranges sont vertes, c'est Thérèse Lisieux qui, jusqu'au bout, combat toute la noirceur qui la gagne. C'est une féroce tentative du pur. Et Stéphane Bayard-Jean ajoute, j'aime beaucoup ça, il répète alors les propos de son vieil ami, le père Benoît Lacroix, dominicain, affirmant qu'au fond, chaque individu est spirituel. Et il dit, on le voit dans les moments de grande douleur d'ailleurs. Les échanges que j'ai pu avoir avec Alexis Martin, qui est un auteur athée, lui, avec lequel il échange beaucoup, il dit, sont des échanges les plus riches que j'ai pu avoir sur ce sujet-là. Et lui-même, Alexis Martin, acclame Wajdi Mouawad, qui est un auteur remarquable. Vous savez que on était très puritain dans le temps du refus global, je vous l'ai dit au début, et Marcel Ferron l'a affirmé que ce groupe était puritain, se gardait bien de vivre n'importe comment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le refus global a été un cri provoqué par un certain étouffement, comme l'écrit le père Louis-Bertrand Raymond dans un très bon article du bulletin d'information du Collège Jean de Brébeuf. Mais qui pourrait soutenir qu'actuellement, les artistes subissent quelques contraintes que ce soit, qu'ils ont un besoin sauvage de libération, si ce n'est que les artistes chrétiens. Le refus global, sans le prévoir, a préludé à toute une espèce d'élan invraisemblable dans l'art où on en est rendu aux installations qui ne veulent presque plus rien dire. Et c'est Edgar Morin, je termine sur cette phrase Edgar Morin, la sécularisation signifie non seulement libération par rapport aux dogmes religieux, mais aussi, écoutez bien, c'est Edgar Morin qui parle, mais aussi perte des fondements, angoisse, doute, nostalgie des grandes certitudes. Et c'est ce qui mène au suicide, et c'est ce qui mène au vide, à la vie vide, inutile, et qui semble n'avoir aucun sens tant qu'on ne sait pas que Dieu nous a créés avec ses 100 milliards de neurones, ses milliards de synapses dans la tête. Cette organisation fantastique de notre cerveau crie son existence autant que les milliards de galaxies. C'est inimaginable. C'est d'une beauté à renverser le cœur. Et ça nous porte tout petits, nous, sur notre planète, à nous jeter dans le cœur de Jésus et de lui dire « Je te reconnais ». Comme celui qui nous révèle l'amour de Dieu. Amène-moi avec toi, auprès de ton Père, au creux de mon âme, dans l'unité de l'Esprit-Saint où vous habitez, ô douce et grande Trinité. Amen. »